Bonjour, ici Chantal Lavoie. C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve jeudi 13 juillet, l'émission Aime l'été. Avant-dernière journée de la semaine, j'espère que pour vous, les journées passent lentement, que vous arrivez à profiter de chaque moment en cette période estivale, que vous prenez le temps de vous déposer pour goûter pleinement aux couleurs de l'été. Cela dit, merci de vous joindre à nous. Des rencontres artistiques et humoristiques, c'est ce qu'on vous propose au cours de cette prochaine heure, mais aussi réflexion sur le regard que l'on porte sur la différence, quelle qu'elle soit, et aussi Montréal et sa diversité culinaire. Je vous convie à un autre beau rendez-vous jusqu'à 13h. Voici Aime l'été. Et aujourd'hui, nos jeunes collaboratrices, stagiaires, recherchistes, chroniqueuses Anaïs Sabourin et Aya Jennifer Ando se retrouvent au micro de Aime l'été pour partager leurs réflexions en ce qui concerne les préjugés, le regard que l'on porte sur la différence, quelle qu'elle soit, physique ou autre, mais aussi pour célébrer la diversité alimentaire. Également, je vous présente un artiste multidisciplinaire en situation de handicap après avoir contracté la polio. Je reçois Léopold Bourgeois qui a mis l'art à l'avant-plan dans sa vie pour apporter un peu plus d'humanité dans le monde. Mais d'abord, de l'humour audacieux, corrosif, sur des sujets parfois explosifs, on en discute avec l'humoriste et activiste d'origine haïtienne, Renzel F. Dashington. Voici le menu de l'été. Et oui, je voulais dire, voici le menu de M l'été. Mais en fait, oui, c'est pas le menu de l'été, mais de tout l'été. Mais enfin, je reçois justement, à l'instant, je l'ai devant moi, Renzel F. Dashington. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Ben, on parle de ZooFest ces jours-ci. Ça commence aujourd'hui même pour se poursuivre jusqu'au 29 juillet. Et vous ferez partie de cette édition, 14e édition. Alors, un spectacle que vous avez quand même déjà bien rodé, je pense.
Le spectacle que moi je présente, c'est un spectacle qui s'appelle Super Noir. C'est une édition spéciale, c'est une première fois, c'est une présentation unique.
D'accord.
L'an dernier, dans le cadre de ZooFest, j'ai rencontré un activiste qui s'appelle Lenny Bunga. Okay. C'est, si je devais simplifier ce qu'il est, il est moi en France. C'est la rencontre des activistes de l'Est et l'activiste de l'Ouest. Et on fait un show ensemble.
Donc, la France et le Québec qui se rencontrent pour partager leurs différents points de vue aussi.
Écoute, le show s'appelle Super Noir, donc déjà, ça te donne une idée.
oui, effectivement, oui. Ça met un peu la table, en effet. Et puis, bon, alors, évidemment, vous allez nous parler. Bon, comment on réunit d'abord humoriste et activiste?
Mon Dieu, c'est pas facile.
C'est pas facile à dire?
Non, je pense que dans... de le faire tous les jours pour moi, sachant que j'en fais pas un métier. C'est un badge qu'on m'a donné parce que semblerait-il que ma voix porte. Mm-hmm. Mais moi, je suis un adulte de 45 ans qui en a vu. Puis par moments, je suis fatigué, j'ouvre ma caméra, je parle. Puis il y a des gens qui m'écoutent. Puis quelque part dans tout ça, ils ont dit « Ah, Renzel, t'es activiste. Bah, » tu sais, il y a des gens
oui,
qui en font une vocation.
Vous avez une place dans l'espace public, finalement.
C'est ce que les gens semblent dire quand, au départ, pour moi, je préfère dire que je prête ma voix à des causes qui sont importantes pour moi. Mon premier métier, c'est de faire rire. C'est ce que je fais bien, c'est ce que je fais tous les jours. Je me lève avec ça dans la tête, je me couche avec ça dans la tête. Maintenant, à titre d'activiste, il y a différents types d'activistes. Il y a des gens qui sont impliqués 365 jours par année avec un programme clair à essayer d'instaurer du changement dans la société qui les entoure. Moi,
vous feriez de la politique, sinon, en quelque sorte.
Ouais, on va dire que j'ai une plateforme et j'ai une facilité avec les mots. Ouais. Et j'agis un peu en tant que vulgarisateur auprès de ma communauté parce que beaucoup des choses qui se passent, des fois, on les voit dans les nouvelles, ça passe, puis les cycles de nouvelles, bon, demain, tout machin. Mais il y a des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont senti quand ils voient un George Floyd, par exemple, qui se voient eux-mêmes, qui voient leur père, qui voient leur frère. Puis... d'avoir cette conversation en communauté pour être capable de passer au travers du deuil d'une innocence. C'est vraiment ça.
Oui.
Et moi, en tout cas pour ma part, c'est le rôle que je me suis donné. Il y a différents types d'activistes. Lenny, avec qui je fais le show, lui il se définit comme un activiste panafricain. Et son importance à lui, c'est de mettre en avant, de revoir l'histoire, puis de le voir avec humour. Comment est-ce qu'on nous a vendu des choses qui ne sont pas... Avec l'information qu'on a aujourd'hui en 2023, on devrait regarder les choses différemment.
Oui, c'est ça. Parce qu'il fut un temps où, bien sûr, tous ces enjeux, on en parlait, bien sûr, mais on n'en parlait pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est vraiment toujours dans l'espace public. Alors, on est confronté toujours à ça maintenant. Est-ce que finalement le regard, bon, on sait que votre partenaire qui en France, qui vivait en France, donc où là vraiment les tensions sont exacerbées, alors qu'ici ce ne l'est
pas. J'y étais la semaine dernière, j'y reviens. Ouais, pendant que tout ça se passait, j'y étais. Là.
Alors c'est ça, comment vous vivez ça de l'intérieur finalement?
Ben, bon, donc lui, il vit toujours là-bas, puis je pense qu'il a un peu la même fonction, parce qu'on fait du show business, puis les gens nous regardent un peu différemment. Bien souvent, je me fasse avec les gens en disant, tu sais, il y a des gens qui font ce métier, puis c'est important de ne pas les oublier. Moi, j'ai une lumière sur moi, c'est sexy, c'est le fun, les gens connaissent mon nom, mais les gens qui font le vrai travail, on ne connaît pas leur nom. Maintenant, moi, je fais très attention de créer cette barre-là. Pour beaucoup d'entre nous, Lenny aussi, c'est parce que dans la rage, il y a de l'incompréhension. Tu sais, les gens sont fatigués, ils savent plus comment l'exprimer, puis c'est ce que tu vois dans les rues. Bon, après, il y a des gens qui sont là pour aller chercher des TV, là. Tu sais, ça, c'est la simple. Mais ce qu'on ressent à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, un jeune de 17 ans qui est mort et qui n'aurait pas dû, les gens se projettent eux-mêmes, voient leur petit frère, leur petit cousin, leur enfant. J'ai 45 ans, ça aurait pu être mon fils, tu vois, 17 ans.
Tout à fait, tout à
fait. Puis on se projette, on voit ces choses-là, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher quand... Moi-même, qui ai eu une arme portée sur moi plus d'une fois par des policiers à Montréal, tu te rends compte qu'à ce moment-là, aussitôt que l'arme elle est sortie, c'est plus important ce que tu as fait. Tout est entre les mains de celui qui a ta vie entre les mains. Toute chose considérée pour une personne de couleur, puis notre expérience, les personnes blanches, les personnes de couleur, au mène la police en Occident, si j'avais à le définir pour toi, c'est qu'aussitôt que le gars il me dit bonjour, puis c'est rare qu'il me dise bonjour, mais quand il fait acte de sa présence, moi, je perds tous mes droits.
Dans le sens où
l'exercice de George Floyd ou de Nael, c'est des exercices qui nous rappellent qu'il n'y existe pas grand-chose entre le moment où j'étais libre et le moment où je pourrais être mort. Il n'existe pas grand-chose.
La frontière est mince.
Ah, elle n'est pas juste mince. Mon Dieu, elle se traverse très facilement par ceux qui ont le droit d'enlever la vie à des personnes qui me ressemblent, tu vois.
Je comprends.
Donc,
et pour vous, ben, l'humour, en fait, est-ce que ça peut déboucher sur le dialogue?
En conversation, absolument.
Ouais.
Maintenant, ce qu'on fait en spectacle, c'est plutôt un exutoire.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment plutôt un exutoire.
C'est un peu plus explosif, mais est-ce que ça veut dire que... est-ce que vous diriez que jusqu'à un certain point, est-ce que ça peut exacerber les tensions ou l'humour, pas vraiment? C'est-à-dire que c'est pas le but, c'est pas ça.
Mon Dieu, l'humour, c'est un outil dangereux au sens où, tu sais... Pour ceux d'entre nous qui le faisons depuis longtemps, on devient des maîtres orateurs. Donc, oui, on peut en faire un peu n'importe quoi.
C'est ça.
Mais dans le cas de ce que moi je fais... Oui, absolument. Mais ce que moi je fais en spectacle, moi, ce qui me fait le plus plaisir, de gens de toutes les couleurs et toutes les origines qui arrivent dans ma salle et je le vois. Je vois la tête des gens, ils viennent voir un spectacle, ça. Mais quand ils quittent, ils ont l'air légers.
D'accord.
Et je pense que de renvoyer ces gens-là dans la société, c'est ça mon travail.
Alors ça, c'est mission accomplie à ce moment-là.
Ça, c'est ça mon travail, je le fais fièrement.
Donc, à la fois aussi de désamorcer ces tensions-là, enfin, d'en rire, commencer par, bien sûr, en rire et puis de faire prendre conscience, mais aussi, ultimement, d'arriver aussi à ce dialogue. Donc, mais évidemment, bon, mais vous allez m'en parler si davantage de votre travail comme tel, de ce que...
Ben, si je peux vous permettre, moi... Pour ce qui est des actions avec la police, par exemple, ce genre de choses, tu sais, je disais, quand tu entends des victimes, tu entends une similitude assez extraordinaire avec les personnes qui sont victimes de viol.
Ouais. Dans
le sens où il t'est arrivé quelque chose, puis tu te remets en question, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent? Puis cette anxiété-là qui arrive, peu importe ta proximité, disons que toutes les personnes noires que tu côtoies est à un degré de quelqu'un, sinon pas elle-même, qui à un moment donné, la police est allée trop loin.
Ouais, c'est
avec,
ça.
Tu vois, donc c'est pas comme une légende urbaine, c'est quelque chose qui fait partie de nos quotidiens. Maintenant, comme ça fait partie de nos quotidiens, limite c'est presque plus facile parce qu'on en est tous victimes. C'est pas comme si on a l'impression que à l'intérieur des communautés noires, pour donner cet exemple-là, on est comme 5%, fait qu'on est non. Tu sais, quand je croise un homme noir, s'il conduit, je sais qu'il vit la même chose que moi.
Je comprends. Et puis, mais en fait. Parce que ZooFest, justement, c'est une espèce de laboratoire où finalement on réunit des humoristes de la diversité, bon, quelle qu'elle soit. Et puis effectivement, donc, on a parlé les femmes, ce que peuvent vivre les femmes. Mm-hmm. Bon, il y a plein de gens qui peuvent être marginalisés, bien mm-hmm. sûr. Mm-hmm. Alors là, il y a aussi tout ce qui est, enfin, les groupes LGBTQ+. Bon, alors c'est ça. Est-ce que finalement, vous avez le goût aussi de faire un pont dans tout ça? Dans toutes ces causes? Ou en fait, est-ce que c'est... c'est important là, de rallier toutes ces causes aussi, peut-être pour que finalement on ait un dialogue plus large.
Bien, à la base, les gens qui militent, je pense, sont dans la communication.
D'accord.
Parce que vous l'avez dit, ce sont des causes et des personnes marginalisées. Elles ne se marginalisent pas elles-mêmes, mm-hmm. elles sont marginalisées.
Ouais.
Le but de communiquer, de parler de ce qui nous arrive de notre point de vue, c'est ce qui est important pour avoir des alliés. Parce qu'on est, comme tu dis, en effet marginalisé. Donc, à un moment donné, tu ne sais plus qui croit en ce que tu dis.
Mm-hmm.
Tu vois, qui même a de la sympathie envers ce que tu vis. Peu importe ce que c'est, cette marginalisation-là. Dans le cadre de l'humour, on parle de gens... tu sais, moi, je suis un clown triste. Okay? Je fais rire parce que ça me fait du bien de rire et de faire rire, être en présence de rire. Puis moi, je le vois comme la médecine que je mets dans le monde. Puis la médecine que je mets dans le monde, c'est cet humour-là. Maintenant, mon humour, il est 50%, j'aime bien dire ratchet, 50% substance. Je parle de choses basiques des fois.
Oui.
C'est pas toujours des trucs substantiels qui ont...
On n'est pas toujours dans la réflexion profonde, c'est ce
non,
que vous voulez dire.
Non,
ouais.
non.
Il y a des choses aussi plus simples, oui, qui touchent notre quotidien, tout ça.
Bien au contraire. Mais une portion de ça, comme l'humour de George Carlin, comme l'humour de c'est un de ceux que je préfère,
ouais,
qui
est
un
ça.
Homme
vous
blanc.
Avez des influences aussi, vous avez, il y a des gens que vous-même admirez bien sûr dans leur façon de travailler.
Mais tu vois, George Carlin, qui est un homme qui a connu son succès, je dirais à peu près dans les années 80 comme ça, you know, mais qui est un homme blanc américain très connu, qui lui décortiquait la place du gouvernement, de l'État dans la société, puis une portion de l'humour du stand-up et a toujours existé pour faire réfléchir. Mais à l'intérieur même de notre métier, si on ne vous fait pas rire, sans le rire, ça s'appelle un TED Talk.
OK.
Nous, on ne fait pas de TED Talk.
Non, je comprends.
On fait du rire. Donc, peu importe le chemin que je prends pour parler du rire, je suis un homme de 45 ans célibataire. Il y a beaucoup de ce que je raconte qui est travaillé autour de ça. Maintenant... Il y a une des choses que je raconte sur scène qui parle du racisme, mais d'une manière hyper détournée, comme j'explique aux gens déjà d'une part que je suis un gars cochon et timide, ok, et que le fait d'être cochon et timide, c'est une affliction particulière parce que je veux faire des choses vraiment funky, mais je veux pas que les gens me voient les faire.
Ok.
Tu vois, cochon et timide,
c'est
tu vois.
Trop drôle.
Et puis je passe par là pour dire, tu sais, je suis sorti avec une aveugle qui réglait un peu mon problème. Parce que comme je suis cochon et timide, elle ne me voit pas, je règle un peu mon problème. Mais on se rend compte au fur et à mesure de la première date, très tard dans la première date, qu'elle ne sait pas que je suis noir.
OK.
Parce que le rapport des yeux à la couleur, et j'essaie de disséquer un peu cette idée de dire, à quel moment est-ce que quelqu'un devient raciste? Parce qu'on dit le racisme, c'est dans le cœur, peut-être dans le cerveau, mais si tu n'as pas les yeux pour percevoir ma différence. Donc, tu vois, je suis parti de mon célibat à 45 ans. Je suis parti de certaines de mes trucs où je vous dis, ouais, bon, très honnêtement, je suis un peu cochon, mais je suis un peu timide. Puis, il m'est arrivé une histoire, boum, je sortais avec une aveugle. J'ai dit, ah, c'est drôle, tu vois, je peux faire des choses que j'aurais été gêné de faire autrement,
ouais,
mais comme elle
ça.
Ne me voit pas. Et beaucoup plus tard, on se rend compte qu'elle ne sait pas que je suis noir. Comment est-ce qu'on vit cette expérience?
Comment on réconcilie tout ça? Bon, enfin, évidemment, vous êtes, comme je le disais, présent dans l'espace public. Bon, et il vous arrive d'avoir des prises de bec aussi, c'est connu. Bon, avec des personnalités aussi connues.
Oui,
bon,
oui,
alors,
j'en ai quelques-unes.
Bon, mais est-ce que vous, oui, est-ce que vous trouvez que, bon, là, on se plaint tous, finalement... qu'on n'arrive pas à dialoguer. Est-ce que vous êtes confiant qu'on va y arriver?
Permettez-moi le mot, mais moi, surtout quand on parle de personnalité publique, j'ai observé énormément de lâcheté. Quand on est dans l'aide du public, les gens nous font confiance, puis par moment, on doit l'idée. On doit aller au-delà de nos peurs, sachant que la peur, c'est une émotion qui n'est pas logique. OK? Moi, j'ai 45 ans, j'ai jamais été casier judiciaire, j'ai une longue histoire, ça fait 25 ans que je suis dans ce business.
Ah ben oui, vous avez été, il faut le dire, promoteur de spectacles, producteur, gérant d'artistes. Vous traînez votre boss depuis fort longtemps. Vous avez quand même été gérant, je pense, de Corneille.
Entre autres, oui.
Vous avez connu Diam aussi.
Oui,
alors
oui,
vraiment,
oui.
Ces gens-là vous ont apporté énormément.
Ça a apporté énormément à la carrière que j'ai aujourd'hui.
D'accord.
C'est un point de vue qui est particulier, mais aussi des amitiés particulières, aussi des relations particulières. Vous parliez de certaines personnalités publiques qui ont des... C'est des gens qui me connaissent depuis quand j'étais jeune. On se connaissait quand on
D'accord,
était jeune.
Ouais.
Donc, c'est des gens qui souvent, qui très peu rarement, Patrick Lagacé est quelqu'un qui a fait quelque chose qui était très rare. Il m'a demandé, je peux-tu t'appeler, j'aimerais parler avec toi.
Ouais.
Mais c'est le seul.
C'est ça, il a vraiment voulu établir un dialogue avec vous.
Mais c'est pour ça que je vous parlais de l'acheter plus tôt. Parce que dans un monde, nous, on a connu des temps là où ça coûtait appeler avec ton cellulaire. Ben, on est dans un temps où ça ne coûte rien appeler avec ton cellulaire. Une conversation, te faire une idée après une conversation.
Et ça change tout parfois.
Ça change tout.
Ça amène un autre regard. Et puis, ben, en tout cas, on va prendre conscience de tout votre imaginaire, en fait, de tout ce que vous avez, votre bagage et tout, avec, ben, vous serez deux. Et bon, Renzel, vous êtes d'origine haïtienne, bien sûr. Enfin, vous êtes d'origine haïtienne. Enfin, vous êtes haïtien de sang, mais vous êtes vraiment Montréalais de cœur. Et puis, on vous connaît depuis longtemps. Et puis,
absolument.
Effectivement, vous avez... le spectacle va être présenté dans le cadre de ZooFest.
Samedi 22 juillet prochain.
Alors, c'est ça. Il faut absolument y aller. Vous serez présenté dans...
C'est ouvert à tous. Hein, soyez pas gênés.
Ouais,
je sais
ça.
Que les choses s'appellent super noir, mais c'est pour les super blancs aussi, si vous voulez.
Oui, effectivement. Alors, un humour... ben, d'accord, corrosif. Bon, sans tabou, mais effectivement... Je pense que c'est ça. Vous visez surtout que les gens aient du plaisir dans tout ça.
Ah, mais je veux dire,
qu'il y a un beau partage.
Chaque fois que les gens quittent une salle où je performe, c'est pas seulement une importance pour moi. C'est mon salaire et je travaille fort pour mon salaire.
Oui.
Ce truc de sentir une pièce passer de, si on parle de couleur, là, de jaune orange à vert clair, tu sais, où les gens ont eu des moments où ils ont ri franchement. Puis vous parliez un peu tout à l'heure d'être un peu corrosif. Quand les gens sont pas un peu poussés dans leur... on ne leur demande pas de challenger leurs limites, sachant que tout le monde est assis sur une chaise, il n'y a pas personne qui rentre dans ta vraie bulle. Ça nous permet à nous, en tant qu'humoristes, d'aller chercher un rire beaucoup plus franc. Donc, oui, je suis un bizarre. Moi, je suis un petit bizarre, je l'ai toujours été, mais j'aime aller vers ce qui est un peu plus tabou parce que ça me permet de désengager les gens. Puis quand je dis plus tabou, je m'utilise moi premier comme exemple.
Mm-hmm.
J'ai pas, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je suis cochon, un peu timide, tout ça. Puis je vais un peu plus loin, là, on est à la radio, on va pas faire tout ça, mais tu sais, j'engage un peu
vous
dans cette
idée. Vous êtes
capable
d'aller quand même assez loin.
Oui.
Enfin, c'est un spectacle à voir, effectivement. Et comme vous dites, là, vraiment, bon, dans le cadre de ZooFest, bon, c'est un format 60 minutes à peu près. Alors,
absolument.
En fait, on ira vous découvrir si ce n'est déjà fait.
J'espère vous y voir tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Renzel. Ça a été un plaisir.
Merci, plaisir.
Bonne journée.
Les yeux plus gros que le monde. Dr. Berry's Big Black. Dang.
Et on disait qu'il avait trop de tir et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité.
Quand il chantait, il faisait la diff. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité.
Depuis Wati, comment leur dire que c'est moi le king, c'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur, on me dit je suis chez père, mais le Big Black aime il a ses pères. Et on dit que la chute elle est sévère, mais le débrouillard il sait faire. J'ai le sang du daron de la Guinée, tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est geeké. Je me fous de vos idoles qu'un riz, ce n'est pas eux qui me donnent le maraud. Je suis pas dans les délires, elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt maroc. Gros son pour les refrains, il faut que tout le monde chante mon refrain.
Et on disait qu'il avait trop de tir, et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité.
Quand il chantait, il faisait la diff. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité.
Je voulais juste prendre mes lovés. sans pour autant vouloir être mauvais. M'en voulais pas d'avoir innové. Oh, tous vos sons me donnent la nausée. J'étais au tiers car souvent posé. Je voulais que personne vienne me causer. Je voulais juste dream et me sauver. Fuck l'intérim, je préférais chômer. Beaucoup m'ont dit que je finirais paumé. J'avais que section pour m'épauler. J'étais souvent dur et en colère. Oui, je n'aimais pas le système scolaire. J'avais du mal avec les horaires. Et mes ennemis, je disais, je les aurais. Je ne suis pas là pour décorer. Non, Renoir, faut pas décoller.
Et on disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité. Encore à quel.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on oubliait la crise. Pour ne pas se prendre la tête, disait ainsi soit-il.
Pas besoin de cogiter ta diatité. Sur mes titres, mon gars.
Si j'ai les yeux plus gros que le monde, c'est que j'ai dû voir ce qu'ont vu tous les grands du monde, n'est-ce pas? J'ai que ma gueule, ma musique et mon style. Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine sur mes titres.
Et
mon
on
gars.
Disait qu'il avait trop de tir. Et qu'il vendait du rêve aux ladies. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter ta diatité.
Quand il chantait, il faisait la dip. Et avec ses mélodies, on
besoin de cogiter ta gentilité.
C'était la légende Black de Black M.
Oui, alors merci Nicolas, c'est ça, Nicolas qui bien sûr assure la mise en onde et tout. Et là, on a nos jeunes chroniqueuses, recherchistes qui sont avec nous. Enfin, j'aime bien dire jeunes, hein, parce qu'effectivement, vous l'êtes. Et puis en même temps, ben, il faut bien commencer à quelque part. Vous êtes nos stagiaires pour l'été. Et puis on est très, très heureux de vous accueillir toutes les deux. Alors, je parle à Aya Jennifer Ando dans un premier temps. Puis ben là, elle est à côté de moi, Anaïs Sabourin. Bonjour, Anaïs.
Bonjour.
Alors, bon, tu vas nous parler, toi, un petit peu plus tard, tout juste après la pause. Oui, effectivement, la pause de la demi. Mais dans un premier temps, on va parler à Aya Jennifer qui, elle, a décidé de nous parler de la diversité alimentaire ici au Québec, à Montréal, un peu partout. Bon, bonjour toi.
Coucou Chantal.
Coucou, parce que tu es à la maison, ben, tu étais malade aujourd'hui. Alors bon, Alors c'est pour ça qu'on t'accueille au téléphone. Ben, contente que tu sois là de toute façon pour nous parler. Ben, je ne sais pas si tu vas manger beaucoup aujourd'hui, mais bon.
Ben, mais enfin, je vais pas manger, mais plus tard, je vais voir.
C'est ça. Bon, alors, tu nous parles de bouffe, de diversité, tout ça. Alors, écoute, c'est un beau sujet. La semaine dernière, tu nous as parlé aussi des marchés africains que l'on retrouve, notamment du côté de Jonquière, parce que tu as étudié là-bas. Puis, tu nous as parlé aussi des marchés africains ici à Montréal, plus facile, évidemment, à trouver, là. Mais enfin, et là, cette diversité alimentaire, ça t'a frappé quand tu es arrivé ici? Tu es quand même arrivé à l'âge de 13 ans, 13, 14 ans, un peu jeune quand même pour apprécier tout ça. Mais là, tu as pu, depuis ce temps-là, faire un petit bout de chemin puis t'apercevoir qu'il y avait vraiment cette diversité alimentaire.
Ben à Chicoutimi où j'étais avant, ben y en avait pas tant. C'était plus on mangeait des sushis, oui, mais tu sais, y a pas grand chose là-bas. Mais quand je suis arrivée à Montréal, c'est là que ça m'a frappée. Puis comme c'était fascinant de voir à quel point tu pouvais te perdre dans les choix de sur Skip and Dish ou sur Uber Eats. Là. C'était vraiment fascinant de voir ça. Je savais pas quoi manger quand j'arrivais ici. Mais là, je suis un petit peu puisque je suis ouverte à tout puis j'ai pas d'allergie, donc c'était vraiment fascinant pour moi de goûter à tout ce que je voyais.
C'est ça, donc c'est drôle parce que tu abordes entre autres la cuisine anglaise. Donc est-ce que tu as quand même été initiée? Bon, parce que tu fais un tour d'horizon de tout ce qu'on peut trouver ici. Ce qui t'a frappé finalement?
Oui, absolument. La cuisine anglaise, ben, on va dire que c'est plus les petits déjeuners que j'ai vraiment pris ici. Parce qu'ils sont vraiment, bons. On peut faire ça, on peut le faire à la maison, comme ton rôti, ton bacon, ton toast, tes œufs. Ben, tu peux faire ça chez toi. Mais aussi le fish and chip, je sais pas si tu es une grande fan de ça. Ils sont vraiment bons.
Oui, c'est ça. Il y en a que oui, il y a des endroits qui se spécialisent là-dedans à Montréal. Oui. Et puis, oui, effectivement, qui sont très appréciés.
Moi, j'avais trouvé le fish and chip du bar Georges situé au 1440 rue Drummond vraiment bon. J'étais allée manger avec une amie, puis on a pris notre déjeuner là-bas. C'était vraiment bon. J'ai pris aussi... Elle avait pris des œufs bacon, genre un déjeuner spécial. Puis moi, j'avais juste goûté pour voir comment ça goûtait. Puis là, j'étais épatée. C'est juste un déjeuner, mais quand c'est fait par des personnes qui savent le faire, ça change tout.
Tout à fait, oui. On met même des haricots blancs aussi, dans ces petits déjeuners anglais.
Mais là, j'avais une question d'abord à te poser. Toi,
oui.
Toi, tu trouves que la diversité, cette diversité-là, est quittée d'où?
Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'avec les voyages, cette espèce de mixité là, que l'on retrouve au niveau des échanges et tout, là, on pense bien sûr à tous ces gens issus aussi de l'immigration, comme toi d'ailleurs, tu arrives de la Côte d'Ivoire. Alors forcément, ce sont des apports vraiment intéressants là, pour toute cette culture alimentaire.
Oui, absolument. On peut vraiment dire merci à l'immigration parce que c'est vraiment des personnes de chez eux qui sont venues ici puis ils ont apporté toutes ces diversités-là. On peut dire merci à eux parce que ça nous fait changer. On peut voyager sans même prendre un billet d'avion. C'est ce qui est vraiment cool dedans. Tu sais, j'ai essayé la gastronomie espagnole. C'est vraiment caractérisé par plusieurs épices, des légumes aussi, des tomates, des pommes de terre. Tu sais, il y a des affaires qui sont vraiment basiques dedans qu'on change jamais, comme le poivron, l'ail, l'oignon. Et dans la plupart des plats espagnols, tu vas toujours retrouver ça. Et comme moi, j'ai apprécié la paella. Tu sais, c'était la première fois que j'en mangeais. C'est vraiment bon. Ils peuvent en faire toutes différentes sortes. Tu peux en avoir aux crevettes, tu peux en avoir au bœuf, au poulet. C'est comme, tu peux changer.
Ouais.
C'est vraiment varié, oui. Et si vous voulez manger vraiment une bonne paella, la Casa Galicia, située au 2087 rue Saint-Denis, sur le quartier latin, ils font vraiment des bonnes paellas. Genre, je vous le conseille vraiment.
Oui, c'est ça. Et avec, évidemment, des épices, le safran, cannelle. T'aimes bien aussi le Mexicain?
Oui. Ah, le Mexicain, je peux te dire que ça, c'est un coup de cœur. Parce que j'aime beaucoup épicé, j'aime beaucoup pimenté. On a une recherchiste qui, elle n'aime pas vraiment le piment, donc je ne peux pas goûter à cette merveille-là. Mais le riz, c'est une des composantes de cette cuisine-là. C'était apporté de l'Europe. Il y a aussi le porc, le poulet, le bœuf, le fromage. Puis peut-être tout ça, même si c'était mélangé d'autres pays, ça fait que maintenant, ils ont leur propre cuisine à eux, comme les tacos, les quesadillas, le pambazos,
ouais.
Le tamale. Moi, la quesadilla, je peux dire que c'est maintenant rendu l'un de mes plats espagnols.
Aya, on en reparle tout de suite après la pause. On continue.
Ah, parfait.
Écoutez, aime l'été.
Et oui, deuxième demi-heure de l'émission et je m'entretiens toujours avec Aya Jennifer Ando à propos de diversité culinaire. Et tu nous parlais de spécialités, de spécialités mexicaines et tu nous suggérais un resto.
Oui, c'est la Toxica Montréal au 7221 rue Saint-Hubert. Je vous assure, ils font les meilleurs quesadillas au monde. Là. C'est vraiment un coin cosy aussi, donc vous pouvez soit être en dedans ou au dehors. C'est comme vous voulez.
Mais oui.
Sinon, les restaurants haïtiens, j'étais vraiment surprise de voir qu'ils ont à peu près la même culture que nous. Donc, je n'étais pas vraiment dépaysée.
C'est vrai, hein, toi qui arrives de la Côte d'Ivoire, tu trouvais qu'il y avait une similitude finalement, oui, avec la bouffe haïtienne finalement.
Oui, donc vous pouvez trouver les meilleurs griots au Tibeuf situé au 302 rue Ontario. C'est un délice, leur cuisine, là.
C'est ça, parce que ça, c'est un des célèbres plats, le griot, hein, pour la cuisine haïtienne. Ouais.
Oui, absolument, dans les fêtes. C'est comme, je pense que tous les plats que je viens de citer, tu peux toujours trouver ça dans les fêtes, dans les cérémonies. C'est des affaires qu'on ne peut pas s'en passer.
Alors, c'est vraiment donc à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le griot. Oui. Donc, un plat, un bon plat famille, finalement. Très réconfortant, j'imagine, hein, c'est ça?
Oui, absolument. Ouais.
Et puis, en terminant, restaurant coréen, je pense que ça, t'apprécies beaucoup.
Vraiment beaucoup. Genre, je suis vraiment une fan de la culture coréenne, donc j'adore vraiment la saveur qu'ils ont. Puis, tu sais, ils peuvent tellement mélanger leurs affaires, puis les choses qui ne changent pas dedans, c'est toujours des affaires à base de riz, de nouilles, ça peut être sauté, frit ou même glacé, des nouilles glacées, là. Chantal, il faudrait que tu y goûtes, là.
Bon, ben écoutez, ça sera, c'est effectivement, Aya, tu n'as qu'à m'inviter, puis aucun problème, je serai au rendez-vous. Enfin, alors donc, la culture alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle tous, hein, alors vraiment, avec toutes sortes de plats à découvrir. Ça a été un plaisir, Aya, de partager ça avec toi.
Merci, Chantal.
Et puis, je passe de Aya à Anaïs. Bonjour, Anaïs.
Bonjour.
Et là, on change de registre complètement. Oui. Alors, bon, on sait que tu es toi-même en fauteuil roulant. Oui. Bon, alors, ça, en fait, tu nous fais des chroniques souvent en lien un peu avec, en fait, ton vécu, ta réalité. Et là, je trouve ça intéressant, là, parce que tu vas nous parler de quelque chose peut-être un petit peu plus personnel.
Oui.
Ça, c'est plus difficile, évidemment, quand on touche ce qui nous... enfin, quand c'est personnel, je pense que c'est pas... pour toi, ça t'interpelle davantage, là. Oui. Et donc, le regard que l'on porte sur les gens qui sont en situation de handicap.
Oui, bien, en fait, je vais commencer par dire que vivre avec un handicap dans une société, c'est assez difficile pour tout le monde. En fait, être différent, en général, c'est difficile. Je pense qu'on peut parler d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de différences culturelles, de différences physiques, puis j'en passe plusieurs. Mm-hmm. Le regard que les gens posent sur nous, ça peut parfois être extrêmement difficile, puis ça peut être blessant même dans certains cas. Faut savoir que les gens, ils font souvent pas ça pour blesser. Je pense que souvent, la différence intrigue, la différence emmène des questionnements. Je pense que Chantal aussi, tu peux en témoigner. Quand on voit quelque chose de différent, on se pose des questions. C'est très normal.
C'est vrai.
Mais je pense que ça vient de l'ignorance plutôt. Puis ce qui est important, c'est vraiment d'éduquer les gens. Puis moi, c'est là-dessus que je veux vraiment me concentrer. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'éducation peut-être des plus jeunes pour vraiment éliminer ce facteur-là d'inconnu. L'important, ce serait vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est quand vous me croisez, par exemple, dans un endroit public, si vous me croisez dans un centre d'achat, dites pas à votre enfant de pas pointer, de pas dire que c'est différent. C'est important d'expliquer à l'enfant que oui, je suis différente, mais que je suis comme tout le monde, dans le fond, puis pourquoi je suis différente. Soyez pas gênés de venir poser des questions à la personne handicapée. Souvent, on se fait un plaisir même de vous répondre.
Ouais. C'est vrai. Mais en fait, ça, c'est depuis toujours, je me souviens, plus jeune,
oui.
J'ai eu moi-même des enfants. Bon, alors, c'est vrai que je pense qu'on oublie parfois. C'est quand on attend toujours d'être confronté au moment. Là. C'est-à-dire que c'est quand ça arrive, là, mais là, c'est peut-être pas le temps. Il faut peut-être y penser à l'avance dans l'éducation de tous les jours.
Exactement.
C'est ça, parce que c'est vrai que là, tout d'un coup, un enfant vous voit quelqu'un en fauteuil roulant et puis, bon, oui, mais tu sais, il faut peut-être... faut peut-être prévoir ce genre de situation-là avant que ça n'arrive.
Oui, puis c'est normal, les questionnements d'enfants. C'est normal, un enfant qui demande pourquoi je suis en fauteuil roulant. C'est une question qui est légitime. Des fois, moi-même, je trouve ça drôle, donc ça va pas me déranger.
Non, il faut laisser place aussi à un peu de spontanéité.
Exactement. Mais tu sais, je parle beaucoup du regard que les autres portent sur nous, mais je pense que le regard le plus difficile, c'est vraiment le regard qu'on porte sur soi-même en tant que personne handicapée. C'est un regard qui est très, très dur, qui est un regard qui est très, très sévère. Moi, personnellement, mon handicap a toujours teinté la façon dont je me percevais. Je pense que c'est pas un secret pour personne qui m'entoure. Je me vois pas nécessairement comme seulement handicapée, mais ça a toujours teinté un peu cette perception-là de ce que je suis. Mon handicap, ça fait partie de ma vie, oui, mais ça a un peu teinté mes complexes aussi. T'sais, pour moi, ce qui est plus dur à accepter, c'est ma position naturelle qui est un peu croche, mes doigts qui, quand on les regarde comme faux, sont un petit peu croches, mes mains qui se referment un peu. Souvent en photo, on les voit, puis ça va me déranger. Mes petites jambes aussi me dérangent. Mais tu sais, c'est tous des éléments que les gens voient
notre,
pas.
Mais aussi, ça peut être simplement notre rapport à la beauté. Mm-hmm. Tu le sais, comment ça peut être aussi... le sentiment de rejet qu'on peut avoir quand on n'est pas la plus belle fille ou le plus beau gars de la classe. Là. Bon, alors ça commence... Ça peut être des choses comme ça. Imagine quand tu es... t'as une différence qui est peut-être... plus évident.
Exactement. Puis je peux même dire là, que moi-même, en tant que personne handicapée, je pense que j'entretiens certains préjugés envers les personnes handicapées avec moi-même. C'est dur à dire, c'est dur à avouer, mais je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes en mobilité réduite. Tu sais, souvent, je vais me préparer pour pas avoir l'air handicapé. Mais tu sais, la question que je me pose, c'est quoi ou juste avoir l'air handicapé?
Oui, c'est ça.
Je pense qu'il n'y a pas de définition, mais je le sais que moi, tous les matins, quand je me prépare, je vais m'habiller sais, je vais m'habiller convenablement, je vais me coiffer, je vais faire attention à ce que j'ai l'air, je vais toujours un petit peu plus travailler pour pas que mon handicap vienne prendre le dessus sur ce que je suis. Mais même moi, je suis pas capable de dire c'est quoi avoir l'air handicapé. Est-ce que c'est avoir l'air moins compétente? Est-ce que c'est avoir l'air moins professionnel?
Ah, ça, c'est intéressant, les questions que tu poses, là, vraiment.
Exactement. Puis, je trouve ça super important de dire que pour moi, c'est hyper important d'être autonome dans tout ce que je fais parce que ça contribue au fait de, pour moi, pas avoir l'air handicapé.
Ah, c'est
même
ça.
Si...
Donc, ça t'amène à en faire plus.
Exact. Oui, toujours.
Tout naturellement, alors que, parce que c'est ça, tu te vois comme quelqu'un de différent et tu, c'est ça, tes enjeux sont vraiment à ce niveau-là. Tu dois démontrer que non, tu veux effacer cette différence-là.
Exactement. Puis j'ai toujours été entourée de gens qui n'ont pas de handicap. Est-ce que c'est confrontant? J'ai envie de dire que peut-être que ça a eu un impact sur ma perception de moi-même. Je pense que ça me ramène aussi à tout ce que j'ai pas. Mais c'est hyper important pour moi d'être entourée de ces gens-là parce que ça me permet aussi de dépasser mes limites. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un défi auquel je fais face depuis quelques années puis duquel on m'a jamais parlé, en fait. C'est le fait de rencontrer quelqu'un. Parce que quand on est à mobilité réduite, c'est extrêmement difficile sur soi-même, mais aussi sur les gens qui nous entourent parce que j'ai l'impression que ça inquiète un peu tout le monde. Puis ça, on n'en parle pas aux jeunes, puis je trouve ça extrêmement dommage. Ouais. Je pense que on passe à côté de ce phénomène-là sur les personnes handicapées. Là. Je trouve ça assez triste. Puis, en fait, j'ai envie de me dire que est-ce que j'ai rencontré des gens pour qui mon handicap, ça ne dérangeait pas? Oui, certainement, c'est déjà arrivé. Mais souvent, j'ai de la misère à croire à ce genre d'affirmation-là parce que j'ai envie de me dire que est-ce que c'est... le fait de seulement pas être dérangé, mais aussi le fait de le porter, de l'assumer, de l'accepter dans tout ce que ça amène. Puis le fait de l'assumer en public aussi, c'est quelque chose. Pour quelqu'un de 19, 20, 21 ans, c'est quand même un gros enjeu. Puis je pense que j'y fais face de plus en plus. Est-ce que c'est une vision réaliste du fait d'avoir un peu cette impression-là que les gens vont toujours être un peu confrontés à mon handicap ou c'est juste une vision qui m'a été imposée par la société? Honnêtement, je sais même pas la
réponse,
moi-même.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Puis, c'est difficile à se dire que les gens seront pas dérangés parce que je pense que tout ce qu'on projette sur les personnes handicapées, c'est le fait qu'on doit être avec une personne qui est aussi handicapée, qu'on n'aura pas de vie amoureuse, qu'on n'aura pas de conjoint-conjoint, qu'on n'aura personne dans notre vie. Donc, je trouve ça assez dommage. Mais malgré tout, je pense que malgré tous les obstacles que mon handicap amène, je changerais rien. Parce que,
parce que oui, t'as appris à te connaître, parce que tu es ce que tu es. Et puis pourquoi tu peux pas imaginer être quelqu'un d'autre, forcément?
Non, exactement. Ce handicap-là m'a forgé, a fait la femme que je suis aujourd'hui. Puis je peux le dire fièrement que sans ça, je serais pas ici aujourd'hui puis je serais pas la femme que je suis. Donc je pense pas que le fait d'avoir un handicap ou pas aurait changé tout ça. Je pense que c'est juste un travail que j'ai à faire sur moi-même, mais aussi un travail que j'ai envie que la société fasse, parce que je trouve que c'est assez important. Puis je veux dire que je suis fière aussi d'être en situation de handicap.
Mm-hmm.
Je suis extrêmement fière, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon image, ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de ce que je projette au quotidien. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est important de le réitérer, que c'est possible d'en être fière, c'est possible d'être heureux, de bien vivre avec ça. Puis je pense qu'on le dit pas assez souvent, là, mais c'est pas juste une question de s'aimer soi-même ou de s'accepter, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
OK, mais je te laissais filer parce que vraiment, je trouve que c'est beau ce que tu dis, alors je voulais pas vraiment t'interrompre. Pas facile de parler de soi-même.
Mm-hmm.
Et puis, ça rejoint exactement, tu sais, on a une autre chroniqueuse qui parle de sujets liés, en fait, à des situations de handicap. Et puis, elle est prof d'université, elle est prof à l'UQAM, alors voilà. Et puis, c'est exactement ce qu'elle disait, la même chose.
Mm-hmm.
Alors, vraiment, donc, faites attention aussi dans la perception, finalement. C'est un peu comme pour tout le monde, là.
Oui.
Tu sais, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes.
Exact.
On est souvent très, très dur envers nous-mêmes.
Oui.
Et puis, justement, le regard que l'on porte sur soi-même,
exact,
c'est très important. Ça part mal si déjà notre regard n'est pas empathique, comment pourrais-je dire, envers nous-mêmes. Tu sais? Alors, bienveillant envers nous-mêmes, peut-être le mot qui serait le plus adéquat. Ben, écoute, Anaïs, ça a été un plaisir, encore une fois. Et puis, merci de nous avoir fait partager ça. Puis je pense que oui, il faut être attentif. Et puis, comme tu dis aussi, pour les parents qui ont de l'éducation à faire, puis ça, c'est très large. Hein. Je pense que ça peut toucher plein de niveaux quand on éduque nos filles, quand on éduque nos garçons. Tu sais, il y a plein de choses.
J'ai envie de dire, même les parents avec des enfants handicapés, je pense que c'est possible d'être heureux puis d'avoir un handicap.
Ouais.
J'ai juste envie de dire ça. C'est possible d'avoir une belle vie, c'est possible d'avoir des amis, c'est possible d'avoir un emploi, c'est possible de s'épanouir. Je pense que ça, on le dit pas assez, puis c'est important de le dire aussi à ces gens-là.
Merci, Anaïs.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et puis peut-être avant aussi. Alors, bonne journée à tous.
Merci. Ouais.
Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le lapin. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. On ne nourrit pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde, et bien plus que ça, j'espère le revoir là, pas dans l'eau. Que tu me fais tourner dans le
C'était Idala, tournée dans le vide.
Merci, Nicolas. Donc, Nicolas qui est à la mise en onde et au choix musical. Il est créateur de culture, de sens et de conscience. Je reçois l'artiste Léopold Bourgeois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un artiste multidisciplinaire. Écoutez, ben, je pense qu'on peut déjà établir que vous avez une longue feuille de route. Disons que vous avez un certain âge, pas ouais. Obligé de dévoiler votre âge, mais quand même, c'est intéressant parce qu'on avait une discussion justement hors d'onde. On parlait de ce beau vieillissement. Parfois, mm-hmm. les artistes ont cette chance de par l'art d'avoir des projets sans cesse, et c'est mm-hmm. ce que vous disiez, les journées sont trop courtes encore à votre âge, c'est merveilleux.
Oui, mais disons qu'il y a une très grande motivation. Il y en a plusieurs en soi, en fait. J'ai décidé que je serais artiste, j'avais pas tout à fait 10 ans.
C'est ça, vous étiez très jeune, hein? Vous
aviez je me souviens à quel endroit où j'étais. L'enfance avait été particulièrement difficile. La naissance infirme, le voisinage croyait que j'aurais pas de vie. Je serais même pas humain, dans le sens que...
D'abord, on va tout de suite dire que, de naissance, la polio, hein? Alors... Finalement,
Non, c'était pas,
c'était la, pas la polio?
Pas la polio. J'ai rencontré un généticien, Dr Cadotte, qui m'avait dit que c'était congénital.
Ah, d'accord, OK.
Ça fait que c'est congénital, mais c'est curieux, le congénital, dans le sens que ma mère avait perdu 2 enfants avant ma naissance.
OK.
Mais très jeune, là, 6 mois, 1 an, là, un garçon ou une fille. Pendant qu'elle est au début de sa grossesse, son père, qui était menuisier, s'est passé 2 doigts dans une sironde.
Ah, mon Dieu, OK.
Ça fait que les 2 doigts, ils ont été comme ressoudés, puis ils ont été dans sa cuisse pendant un bout de temps. Puis comme par hasard, je nais avec 3 doigts après.
C'est drôle. Mais oui, c'est ça. Donc, il vous en manquait de...
Ça fait que ça a créé quelque chose chez maman,
ouais.
Cette histoire-là. Le fait aussi que, papa n'était pas catholique, pas baptisé, mais son père l'était, puis il était éduqué, ça fait que papa voulait que ses enfants, sa femme, le soient. Ça fait qu'il a emmené maman au dimanche... au catéchisme à l'oratoire Saint-Joseph.
Ouais, ouais.
Puis là, maman, elle a appris à développer la foi du charbonnier, comme on dit. Puis elle la voyait, 3 doigts, 3 personnes. Tu sais, il y a tout un espèce...
OK, elle avait tout un côté un peu mystique de tout ça,
il y a toute une symbolique dans le nombre 3.
Mais c'est intéressant. Mais à la fois, votre maman a toujours cru en vous, a toujours... vous avez quand même...
heureusement.
Vous avez d'abord été autodidacte. Votre père était aussi... un ouvrier, en fait, donc...
Un manœuvre, comme on disait.
Et donc, lui aussi avait appris un peu sur le tas, comme on dit. Et puis, finalement, mais plus tard, vous allez entreprendre des études aussi en art. Et donc, vous avez, très jeune, vous avez eu le goût de l'art, et puis vous avez eu l'appel de ça. Et finalement, vous êtes, comme je le disais, un artiste maintenant multidisciplinaire. Vous faites autant de la peinture, de la sculpture, vous êtes même la photo, tout vous interpelle.
Oui, je suis en train de monter un vidéo et tout ça. Au départ, on va revenir à maman.
Oui, oui, parce que ça a été une figure très importante.
Maman était maltraitée par papa, mais sa mère était née autochtone, avait été élevée par une famille québécoise qui avait migré à Boston, mais elle restait avec ses racines quand même. Puis maman a reçu de sa mère un très grand amour de la nature. Puis moi, jeune enfant, elle m'a montré la nature, les choses une par une, tout ça. Mais il lui restait aussi un autre bonheur. Le bonheur, c'était que la télé est rentrée de bonheur à la maison.
OK, oui.
Puis là, elle admirait beaucoup la vie des musiciens Tchaïkovski, Gershwin,
Beethoven.
Puis moi, petit bonhomme, j'étais assis à côté d'elle pendant qu'elle regardait ces vies-là. Puis je voyais qu'elle admirait ces vies-là. Ça fait qu'à un moment, à 9 ans et demi, comme je dis, j'ai eu comme une question, une drôle de question pour un enfant de 9 ans et demi. Tout le monde croyait que j'aurais pas d'emploi, pas de femme, pas de famille, pas d'études, rien.
C'est ça.
Pas de vie.
Bon.
Puis là,
c'était juste en lien avec les 3 doigts?
Oui, c'est ça.
Quand même,
c'est ça.
On n'était pas très optimistes.
Oui, les enfants me fréquentaient pas parce que j'étais réputé contagieux et tout ça. Là.
OK, à cause de cette maladie.
Oui, puis j'ai eu 9 pneumonies avant d'avoir 6 ans, okay, avant d'aller... pratiquement grandi à l'hôpital Royal Victoria. Okay. Ça fait que là, je me vois encore à l'intersection des rues Paul-Pau et Rousseau, chemin de gravier et de terre. Et là, j'ai la question, il y avait quelques livres à la maison. Papa, il tenait à ce qu'il y ait des livres, parce que son père était éduqué.
Mm-hmm.
Mais lui-même, il ne lisait pas. Mais l'encyclopédie de la jeunesse, toutes sortes de livres très, très intéressants, que moi, je dévorais à 8 ans. Ça fait que là, j'étais à l'intersection, puis je me demandais quelle sorte de vie adulte je ferais pour pouvoir vivre une vraie vie.
Mm-hmm.
la science, ma mère n'était jamais allée à l'école. Je ne voyais pas mon milieu faire de moi un scientifique. La musique, ben des années... Moi, je chantais musique par les tripes, là, par en dedans, là, pas par dehors.
Mais ça vous limitait, le fait d'avoir...
L'infirmité, on se voyait pas pianiste des années 50.
C'est intéressant, parce que là, vous parlez d'un... Vous dites le mot infirmité, parce que vous êtes un homme de votre époque aussi, parce qu'à l'époque, ben, on disait ça comme ça. On a toujours dit ça.
Oui,
comme
mais
ça.
Je le crois toujours.
Vous êtes, oui, vous croyez qu'il y a une différence entre dire l'infirmité et handicapé.
Tout à fait. Handicap, c'est comme au golf. Quelqu'un, il part avec un handicap. Mais dans la vie, c'est la même chose. La société va regarder quelqu'un, va dire, lui, il est handicapé. Mais il est handicapé par rapport à quoi? Par rapport aux critères de la société, mais pas par rapport à la vie.
Je comprends.
Tandis qu'une infirmité, ben c'est par rapport à la vie.
OK.
Puis c'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on décide qu'il n'y en a plus.
C'est ça.
On peut pas rien faire pour compenser pour ça. On peut pas souhaiter avoir 5 doigts. Ça se fera pas.
Oh, je comprends.
Ça fait que, finalement, au coin, à ces intersections-là, j'ai pensé aux artistes que maman admirait. Puis je me suis dit qu'il fallait que je devienne un artiste de valeur pour avoir une vie adulte, disons respectable.
Épanouie.
J'avais pas ces mots-là à l'époque, mais c'est ce que j'entrevoyais. Ça fait que j'ai parti là pour devenir artiste, pas parce que j'aimais dessiner, non, il n'y avait pas d'autres choses que
ça.
Pour
vous, il n'y avait pas d'autres avenues, alors il y avait eu tout de suite cette ouverture sur l'art, de par cette sensibilité que, d'abord, que votre mère avait en partant, vous avez été élevé là-dedans avec cette sensibilité. Alors là, bon, tout se développe et puis à un moment donné, il va y avoir aussi l'idée, j'imagine, de transmettre puisque vous avez enseigné aussi.
Oui, ça a été permanent, ça, de transmettre toujours. Parce que, comme j'ai dit, ma mère, elle m'a montré la nature, un brin d'herbe à la fois, mante religieuse, les murs, tout, elle m'a tout montré de la nature, une chose à la fois. Ça fait que c'est resté en moi, ça, le goût de transmettre, parce que c'est ce que j'avais appris.
C'est
pas
ça.
Appris autre chose.
Votre mère faisait la même chose, oui.
Mais sur le plan artistique, là, j'ai surcompensé. J'ai fortement surcompensé, puis je continue de le faire, je l'ai toujours fait. Vers l'âge de 12 ans, j'ai rencontré un prof qui s'appelait Robert Fégère. Il nous enseignait selon la méthode de Célestin Frenet, qui est à la base des écoles, les écoles un peu spéciales ici.
Ah oui, oui, les écoles un peu dites alternatives. Voilà, c'était à l'époque.
Et Robert nous a enseigné comme ça. Ouais. Mais lui, il arrivait en classe avec des beaux grands livres sur l'Égypte, qu'il était archéologue amateur et tout ça.
Ça vous amenait ailleurs.
Puis à ce moment-là, moi, je me suis mis à lire comme un acharné. J'avais commencé jeune à la maison, mais là, je me suis mis à lire comme un acharné. Mais vraiment beaucoup, là, un livre par jour. Et tout
là, oui, vous étiez boulimique. Ans. Comme vous êtes un boulimique d'art, de création, parce que
oui,
vous produisez
tout
beaucoup.
À fait. Bien, comme j'ai dit, pour moi, c'est de la compensation.
Puis vous faites des œuvres, autant sculpture, c'est pas évident non plus avec votre handicap, là, mais tout de même, vous avez développé certainement beaucoup de facilité parce que vous faites des choses magnifiques et avec toutes sortes de matériaux aussi.
Oui, j'ai développé ce que moi j'appelle beaucoup parce que les rapports avec les humains étaient compliqués et difficiles.
OK.
Ça fait que... J'ai développé une très grande intimité avec la matière, avec les procédés, les processus et tout ça. Ça fait que j'apprends des processus très, très aisément, comme si je les avais toujours su. Mm-hmm. C'est très facile pour moi d'apprendre à travailler un bout d'acier, le souder et tout ça. D'ailleurs, quand j'avais 15-16 ans, des amis m'appelaient le philosophe, puis ils disaient que j'utilisais des mots d'une pièce et quart. Ça fait que c'est à ce moment-là, mais moi, j'avais lu des grandes biographies, dont Charles de Foucault.
Ouais.
Puis, ça fait, je me suis dit, à 15-16 ans, ben je vais aller dans les usines. Je dis à Robert, à Bernard, à mes amis, là, Richard. Il dit, je vais aller dans les usines avec vous autres. Je vais montrer que, fils d'ouvrier, on a autant de talent que tous les autres.
Ouais.
Puis je vais faire de l'art avec vos métiers.
Ah, c'est intéressant, c'est ça. Oui, c'est vrai, vous êtes allé en usine. Donc
ça fait que j'ai appris pendant 25 ans, j'ai pratiqué de nombreux métiers.
C'est ça.
Une formation de machiniste, soudage, j'étais inspecteur en soudage et pratiqué plusieurs métiers dans beaucoup d'usines à Montréal jusqu'à Cornwall.
Ça vous a amené à développer beaucoup d'habiletés pour toutes sortes de matières avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui.
Oui, c'est juste à 40 ans que je suis allé à l'université. Ah, il fallait que j'aille à l'Université du Québec, naturellement. Ouais. Puis là, ce que je voulais faire à l'université, c'était valider mon parcours autodidacte. Ça fait, j'ai un peu découvert que c'était pas là qu'il fallait faire ça, mais bon.
Je comprends.
C'est quand même là comme formation.
Juste avant, parce que là, on s'en va un petit peu vers la fin de notre entrevue. Ouais. Et puis là, je veux situer, parce que l'atelier de sculpture... trois doigts, hein, c'est...
En plus, ouais.
C'est ça, trois doigts. Alors, c'est dans Hochelaga Maisonneuve. On peut visiter cet atelier-là?
Oui, toujours.
Toujours. Alors, on entre chez vous, on vient voir ce que vous faites. Vous avez votre site Internet. Alors, Léopold Bourgeois, c'est ça, atelier de sculpture trois doigts. Et puis comme ça, on va découvrir tout ce que vous faites. Ouais. Et puis effectivement, parce que vous vendez vos œuvres aussi.
J'insiste pour dire que c'est trois doigts en plus.
Oui,
trois doigts en plus. Vrai. C'est sur la rue de Rouville. Et Bourgeois s'écrit B-O-U-R-J-O-I.
Oui, B-O-U-R-J-O-I.
J-O-U-I.
Oui, voilà, je m'excuse.
Oh, ouais.
C'est parce qu'en fait, là, on arrive à la fin. Je ne peux pas vous... je vous garderai bien plus longtemps, évidemment. Alors, merci, Léopold Bourgeois, J-O-I. Et puis, merci d'avoir été là. Bon après-midi à tous.
Merci de m'avoir reçu.